Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour, très content de vous retrouver pour Le Monde aujourd'hui, une demi-heure d'infos sur la VOA. Jacques Aristide et Anne Albertson avec vous en ce mercredi 16 avril 2014. Bonjour Anne.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Un bref aperçu du contenu ce matin, la Gambie suspend les vols en provenance des pays touchés par l'épidémie d'Ebola.
Le ministère gambien des Transports a indiqué que la mesure a effet immédiat et sera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Conakry n'a pas voulu commenter la décision dite d'un État souverain.
En Centrafrique, arrestation d'un journaliste pour incitation à la haine. Un Britannique soupçonné de pédophilie condamné à 20 ans de prison au Maroc. À l'international, l'Ukraine est au bord de la guerre civile, affirme le président russe au moment où Kiev passe à l'offensive à l'Est. Et dans la partie magazine, coup de projecteur sur la baisse du prix de l'or blanc au Burkina Faso.
Si on ne produit pas le coton, qu'est-ce qu'on va produire aujourd'hui? Le maïs est à combien? Il y a un contrat qui lie les producteurs de coton aux sociétés cotonnières. Le prix est connu avant la production.
Également te programme les sports et la musique du jour en fin de magazine. Épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest pour commencer, Anne.
Oui, selon le dernier bilan fourni par l'OMS, il y a au moins 121 morts et plus de 200 cas confirmés ou suspects. La Guinée est le pays le plus touché, mais on a signalé 13 morts au Libéria. Pour éviter les risques de contamination, la Gambie a fermé son aéroport aux vols venant de ces pays. Les précisions de Lionel Gaïma.
La Gambie a suspendu les vols en provenance de la Guinée, du Libéria et de Sierra Leone en raison des cas confirmés ou suspects de fièvre Ebola dans ces pays. Le ministère gambien de transport a indiqué dans une lettre datée du 10 avril que la mesure a effet immédiat et sera en vigueur jusqu'à nouvel ordre. Conakry n'a pas voulu commenter la décision dite d'un État souverain. La Guinée fait face à une épidémie de fièvre hémorragique depuis février dernier, avec près de 168 cas, dont 71 confirmés, et 108 morts selon le dernier bilan fourni par l'Organisation mondiale de la santé. Le virus hautement contagieux s'est propagé au Libéria voisin, où 6 cas ont été confirmés. La Sierra Leone avait signalé 2 morts, mais selon Freetown, il s'agit des cas de fièvre Lassa. Bamako a annoncé hier, après analyse de cas suspects, que le virus n'a pas encore atteint le sol malien.
En République centrafricaine, le directeur de publication d'un quotidien a été arrêté hier pour incitation à la haine, alors que 2 journaux ont été suspendus. Les détails avec le journaliste Thierry Bomba à Bangui.
Ça a été le tour de Patrick Akibata, directeur de publication du journal Le Peuple, qui a été arrêté à la gendarmerie pour incitation à la haine et diffamation. Entre-temps, le vendredi dernier, c'était le tour du directeur de publication du journal Le Palmarès, Régis Zoumiri, qui avait été également arrêté à la gendarmerie. Aux dernières nouvelles, le directeur de publication du journal Le Démocrate, Sabine Samba, est recherché. Son journal est suspendu pour 2 semaines, ainsi que celui de Saint-Régis Zoumiri, qui est en ce moment détenu au niveau de la gendarmerie, suspendu pour 1 semaine.
Des propos recueillis par Idriss Fall.
Au Congo-Kinshasa, le conservateur belge du parc national des Virunga, au nord Kivu, dans l'est du pays, est tombé dans une embuscade hier après-midi sur la route menant de Goma à Rumangabo. Emmanuel de Mérode a été blessé à l'estomac et à la jambe. Son état n'inspirait pas d'inquiétude. Le parc des Virunga est le plus ancien d'Afrique. Il a été créé il y a plus de 80 ans et est classé au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO.
Le bilan de la gigantesque explosion qui a éventré une gare d'autobus de la capitale du Nigeria lundi s'établit maintenant à 75 morts et 141 blessés, risque de continuer à s'alourdir. Selon le ministre nigérian de la Santé, Onyebuchi Chukwu, l'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais les soupçons se portent sur le groupe islamiste Boko Haram. Il s'agit de l'attaque la plus sanglante à jamais survenir à Abuja. Lundi encore, au moins 100 jeunes filles ont été enlevées dans un établissement d'enseignement secondaire du nord-est du pays par des hommes armés. Ce kidnapping massif a eu lieu dans la ville de Chibok, dans l'état de Borno, où Boko Haram est très actif.
Au Soudan du Sud, les combats se poursuivent. Les rebelles affirment avoir repris hier le contrôle de Bentiu, capitale de l'État pétrolier d'unité. Le compte-rendu de Timothée Donangmaï.
James Gatdek Dak, porte-parole de l'ex-vice-président Riek Machar, a fait savoir que l'objectif des rebelles est de paralyser la production pétrolière en vue d'empêcher le gouvernement d'utiliser les revenus pétroliers pour acheter des armes. Les compagnies pétrolières des États d'Unité et du Haut-Nil ont eu un préavis d'une semaine pour cesser leurs opérations, a précisé le porte-parole rebelle. Côté gouvernemental, le porte-parole militaire Philippe Aguerre a démenti la chute de Bentiu. Les combats se poursuivent à Bentiu et nous attendons les rapports de notre commandement militaire sur le terrain. Selon Joseph Contreras, porte-parole de la mission de l'ONU au Soudan du Sud, 5 travailleurs étrangers du secteur pétrolier ont été blessés lundi suite à des attaques contre une raffinerie de pétrole à 30 km de Bentiu. Les casques bleus ont évacué tout le personnel de ce complexe, a-t-il précisé.
Le président américain Barack Obama recevra le 5 mai à la Maison-Blanche son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh pour souligner le rôle clé joué par cet allié des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. C'est ce qu'a indiqué le porte-parole de la Maison-Blanche, Jay Carney, dans un communiqué publié hier. Djibouti abrite au camp L'Aumônier, une unité antiterroriste américaine pour la Corne de l'Afrique, dans le but de prévenir les conflits et assurer la sécurité dans cette région. Le président Obama abordera également les questions de développement, de coopération en matière d'énergie et d'échanges commerciaux.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Il est 5h36, temps universel, à l'écoute de la Voix de l'Amérique. Un Britannique soupçonné de pédophilie a été condamné hier à 20 ans de prison par un tribunal de Tétouan, dans le nord du Maroc, pour enlèvement et tentative de viol sur mineurs. C'est ce que rapporte une ONG marocaine citée par l'AFP et des journaux anglais. Robert Bill, un Gallois âgé de 59 ans, qui a plaidé non coupable et dispose de 10 jours pour faire appel, a également écopé d'une amende de 100 000 dirhams, environ 12 500 dollars.
C'est demain, jeudi, que les Algériens votent pour la présidentielle. Aucun suspense puisque le président sortant, Abdelaziz Bouteflika, est assuré d'être réélu. Le point avec Nicolas Pinault.
Oui, à 77 ans, le président algérien est en course pour un quatrième mandat, même si sa santé déclinante et ses rares apparitions publiques ont laissé sceptiques ses opposants. 5 autres candidats affronteront Bouteflika, le candidat archi-favori du FNL, le Front National de Libération. Le président algérien est au pouvoir depuis 1999, après la sanglante guerre civile. Abdelaziz Bouteflika fait changer la constitution en 2008 pour pouvoir se présenter indéfiniment. Le chômage reste la principale préoccupation des Algériens dans un pays riche en gaz et en pétrole, mais où la jeunesse reste à sec et rêve d'un avenir meilleur.
L'Iran demande l'intervention de l'ONU après le refus des États-Unis de délivrer un visa à son nouvel ambassadeur aux Nations Unies. L'affaire fait des vagues. Jean-Roger Bion.
Les autorités américaines s'opposent au choix de Hamid Aboutalebi en raison de son implication présumée dans la prise d'otage à l'ambassade américaine de Téhéran. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Jay Carney, a coupé net la semaine dernière, affirmant que ce choix n'était pas viable. Aboutalebi fut un membre de l'Organisation des étudiants musulmans qui a pris 52 diplomates américains en otage pendant 444 jours. Mais le diplomate iranien affirme que sa participation s'est limitée à la traduction et à la négociation. Dans une lettre publiée lundi, la mission permanente de l'Iran à l'ONU a déclaré que la décision des États-Unis aura des implications négatives au plan diplomatique et va créer un dangereux précédent. Refuser un visa à un État membre de l'ONU va à l'encontre de la charte de l'Organisation mondiale et du droit international, clame la représentation iranienne. Téhéran affirme ne pas avoir l'intention de nommer un nouveau diplomate en lieu et place de Aboutalebi. La crise des otages en Iran avait conduit Washington et Téhéran à rompre leurs relations diplomatiques.
La situation est plus que jamais explosive dans l'est de l'Ukraine. Kiev a déployé hier ses forces, armée et garde nationale, contre les séparatistes pro-russes dans cette partie du pays. Et cela malgré les appels à la négociation de plusieurs dirigeants internationaux. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'Ukraine était au bord de la guerre civile après l'offensive lancée par le gouvernement ukrainien. Mardi, plusieurs administrations étaient aux mains de manifestants pro-russes qui réclament un rattachement à la Russie ou au minimum une plus grande autonomie. De son côté, Washington a indiqué être prêt à imposer de nouvelles sanctions contre Moscou en cas d'échec de la réunion internationale de jeudi à Genève pour tenter de résoudre la crise ukrainienne.
Au moins 2 morts dans le naufrage d'un ferry qui a sombré hier au large de la Corée du Sud. Les secours ont évacué au moins 145 des 470 passagers à bord de ce bateau sud-coréen, d'après les autorités du pays. Les étudiants et les enseignants à bord se rendaient en voyage scolaire sur l'île de Jeju, à une centaine de kilomètres au sud de la péninsule coréenne. La cause de l'incident n'était pas encore déterminée avec certitude hier soir, mais le ferry a subi un choc violent et bruyant avant de commencer à couler, selon des passagers.
Voilà donc pour la tranche actualité. Merci Anne et à tout à l'heure. Vous êtes toujours branchés sur la VOA émettant de Washington. Le monde aujourd'hui se poursuit avec Jacques Aristide au micro. Cap sur le Burkina Faso où les contoculteurs sont désormais fixés sur les objectifs de production pour la campagne 2014-2015, soit 800 000 tonnes de coton contre 750 000 lors de la précédente récolte. Mais les perspectives sont plutôt moroses pour les producteurs burkinabés car le prix de l'or blanc a chuté de 235 à 225 francs CFA le kilo à Ouagadougou, le reportage de notre correspondant Zoumana Wonogou.
Pour la campagne cotonnière 2014-2015, l'AICB, Association interprofessionnelle du coton du Burkina, a de bonnes et de moins bonnes nouvelles pour les producteurs. On écoute Ali Compaoré, le président de l'association fonds de lissage.
Il faut annoncer comme bonne nouvelle la baisse d'à peu près 5% du prix de cession des intrants, qui passe pratiquement de 15 500 pour les intrants essentiels, engrais, NPK et urée, à 14 800 francs CFA, le sac de 50 kg. Notez également que la semence de coton génétiquement modifiée a subi une légère baisse d'environ 1 000 francs CFA. Par contre, au niveau du prix plancher pour la campagne 2014-2015, là, nous observons une baisse d'environ 10 francs par kilogramme de coton graine. Donc, le prix plancher passe de 235, comme annoncé l'année dernière, à 225 cette année.
L'objectif visé pour la campagne à venir est d'atteindre 800 000 tonnes de coton. N'y a-t-il pas là un paradoxe avec la baisse des prix d'achat aux producteurs? Suivons l'avis de Karim Traoré, le président de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina, du NPCB.
C'est pas paradoxal. Le producteur de coton est professionnel. Par rapport à ses activités, il fait son compte. Et par rapport à ce compte, il regarde. En produisant le coton à tant de francs, qu'est-ce que ça me donne? Il calcule. Et c'est tout ça qui le permet à produire. On a produit à 145 avec les mêmes prix des intrants. Donc aujourd'hui, 225. C'est les recettes qui diminuent. Par contre, le producteur a son compte dedans. Vous voyez, 15 milliards distribués aux producteurs, on ne voit pas quelle spéculation au Burkina Faso nous pouvons produire, avoir 95 milliards de recettes pour donner aux producteurs. Parce que si on ne produit pas le coton, qu'est-ce qu'on va produire aujourd'hui? Le maïs est à combien? Il y a un contrat qui lie les producteurs de coton aux sociétés cotonnières. Le prix est connu avant la production. Tu fais ton compte d'exploitation avant de semer. Et toute ton exploitation que tu as prévue, tu le fais, il est obligé aux sociétés cotonnières d'enlever la totalité de ton coton. Mais par contre, les autres spéculations, parfois on vient te fixer le prix après la campagne, ce qu'ils veulent. Tantôt ils montent, tantôt ils descendent, et puis ils peuvent même ne pas payer. Même avec cette baisse-là, si Dieu nous donne une très bonne pluviométrie, nous allons atteindre les objectifs que nous avons, les 800 000 tonnes.
Zoumana Wonogo, Ouagadougou, la voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Au chapitre de l'énergie en Afrique, une nouvelle législation au Ghana exige que les compagnies de pétrole et de gaz utilisent davantage de produits et services locaux. Cette mesure conduira-t-elle à plus de création d'emplois? Le Ghana a-t-il les entreprises et la main-d'œuvre qualifiées pour tirer profit de cette loi? Autant de questions qui font débat dans le pays. Michel Joseph.
L'objectif de la nouvelle loi est de créer des emplois et de promouvoir le développement de l'entreprise. Elle donne une préférence aux groupes locaux dans l'octroi de licences d'exploitation pétrolière. La loi offre en outre la possibilité aux Ghanéens d'avoir jusqu'à 5% de participation dans tout investissement effectué par une société internationale. Le Ghana a découvert des gisements de pétrole offshore en 2007. La production commerciale a débuté en 2010. La commission du pétrole du pays est convaincue que la nouvelle loi permettra à plus de gens de bénéficier des revenus pétroliers. Le directeur général de la commission, Theo Awerang, estime que la participation locale dans le secteur du pétrole sera un grand coup de fouet à l'économie du Ghana.
It's through participation that you develop the skills of the people so that at the end of the day when the oil world
C'est grâce à la participation que vous développez les compétences des personnes de sorte qu'en fin de compte lorsque la richesse pétrolière sera finie vous laisserez une économie avec des gens et des entreprises qualifiées. Nous avons eu une réponse fantastique à partir d'un grand nombre de sociétés. Nous nous sommes assis avec eux pour les aider à comprendre le processus d'acquisition et je dois dire que le soutien a été très bon. Cependant, on ne sait pas si la loi va créer plus d'emplois dans l'exploration et le forage du pétrole. Les entreprises locales actives dans ce secteur offrent surtout des services au sol, tels que l'ingénierie, la construction, la sécurité et le transport. Certaines sont petites et mal structurées. Si elles essaient de soumissionner pour des contrats lucratifs en mer, elles feront face à la rude concurrence des entreprises étrangères plus expérimentées. Awerang espère que la création d'un centre de développement de l'entreprise, en partenariat avec des compagnies pétrolières internationales, permettra d'aider les travailleurs et les entreprises locales à acquérir les compétences dont les compagnies pétrolières ont besoin. Personne ne se réveille et devient soudainement un dynamique médaillé d'or. Vous devez passer par un processus de développement. Je sais que la plupart des travailleurs de plateforme que nous avons à l'heure actuelle sont un héritage du travail des années 80 entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Certainement, ces messieurs sont avancés en âge et il est nécessaire pour nous d'engager des jeunes. Selon Theo Awerang, la Commission ghanéenne du pétrole est en train de se lancer dans une cartographie exhaustive des ressources humaines pour répertorier les compétences dont dispose le pays et savoir comment faire pour développer celles qui manquent au niveau local. Le directeur exécutif de l'Association ghanéenne du pétrole et des fournisseurs de services de gaz, Nuerte Adzeman, a salué la nouvelle loi. Pour lui, ces dispositions peuvent conduire à des situations gagnant-gagnant pour les investisseurs internationaux et les entreprises locales dans l'industrie pétrolière croissante du Ghana.
Timothée Donangmaï avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Un autre coup de projecteur sur Boko Haram, une nouvelle fois accusé d'être responsable d'un sanglant attentat qui a fait plus de 70 morts dans la banlieue d'Abuja lundi. Comment s'expliquent les difficultés du gouvernement nigérian à mettre un terme à cette insurrection? Vos commentaires sur la page Facebook de Washington Forum. Et rendez-vous donc ce jeudi à 19h temps universel sur la Voix de l'Amérique.
Une belle incursion dans l'histoire à ne pas rater au Bénin, un tout premier festival pour mettre en exergue le royaume de Tado. L'événement aura lieu du 26 avril au 4 mai à Dahé, à l'est de Cotonou, à l'initiative de l'association culturelle Festival International Rencontre des Civilisations. Le festival qui va donc s'échelonner sur 8 jours entend restituer la vraie histoire des royaumes du Bas-Bénin. Un avant-goût avec notre correspondant dans Peggy Ludovic Dagba.
L'histoire du royaume de Dahomey, ancien Dahomey, aujourd'hui République du Bénin, revisitée et réécrite à travers un festival. Le Festival international des rencontres des civilisations. Un ambitieux projet qui a germé et qui taraudait l'esprit de l'administrateur culturel à la retraite d'A à Hornoviglele depuis plusieurs années. Choqué par l'omission voulue d'importants pans entiers de l'authentique histoire d'Adiaouto, le fondateur du royaume d'Alada au sud Bénin, d'A à Hornoviglele, pense que ce manquement grave à l'histoire ne saurait perdurer.
Mon rêve, d'aider avec mes collaborateurs et d'autres sages, de tenter de réécrire notre histoire. Parce que l'histoire qui nous a été servie par le colonisateur est celle qui a servi à ses ambitions, à sa vision. Étant donné que l'objectif premier, c'était de nous diviser pour régner. Et vous comprenez avec moi qu'il est paradoxal qu'on nous traite, quand on fait un pays africain, on dit pauvre, pauvre. Mais c'est vers ce pays pauvre-là que ceux-là qui disent pauvre à coup.
Ayant quitté Tado au Togo, Adiaouto a d'abord fait escale dans la localité de Dahé, dans le département du Bono, à 80 km à l'ouest de Cotonou.
Les mouvements migratoires nous ont conduits à franchir des étapes. Et la première étape, l'une des plus importantes de ce mouvement migratoire, c'est l'escale de Dahé, qui se trouve dans la commune de Fiogwe, à 11 km de Koumé et à 3 kilomètres et demi de Posotomé.
Plusieurs tableaux culturels de l'ère Adjatador sont prévus pour meubler ce festival et régaler les férus de l'art authentique. Des réflexions au cours de tables rondes auront aussi cours afin de révéler les faces cachées de l'ère Adjatador afin d'enrayer les bégaiements de l'histoire et régler définitivement les problèmes liés au respect de la tradition. Da Ahonoviglele, président du festival.
Nous disons que c'est une manifestation inédite, une première, c'est parce que c'est maintenant regroupé les véritables têtes couronnées de notre pays. Un roi doit avoir un territoire, un roi doit avoir une histoire, un roi doit avoir une généalogie à présenter à sa progéniture. Le vaudou doit rester dans son couvent, le roi doit rester dans son palais. Et les vassaux doivent rester autour du palais pour donner des informations. Que ceux qui vont au marché d'Antofa ou ailleurs dans les petits marchés se taillent des perles, un chapeau ou chaussures pour dire je suis roi, nous dirons non. Nous allons avec les gens respecter notre histoire, parce que c'est ce qui fait notre prestige en dehors de notre pays.
Peggy Ludovic Dagba, Cotonou, pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Bénin, sur Fraternité FM à Parakou.
L'heure de retrouver nos témoins de l'actualité en République démocratique du Congo, c'est la rubrique quotidienne des 100 citoyens journalistes.
Mirugi Nestor, citoyen journaliste à Voix de l'Amérique à Kisangani, dans l'optique d'aider les victimes de guerre de 6 jours entre les armées rwandaises et ougandaises, appelait centre-ville de Kisangani à mai 2000 de recouvrer leurs droits, une séance de réflexion sur l'échange des informations. À propos de la situation actuelle des victimes évaluée aujourd'hui à 2700 personnes, vient d'être organisée par le Centre international pour la justice transitionnelle en collaboration avec le ministère provincial de la Santé.
Peter Chabat pour La Voix de l'Amérique. L'actualité à Kalemi, c'est ce ras-le-bol de ces usagers du tronçon routier Kalemi-Taba-Congo, long de plus d'une dizaine de kilomètres au nord-est de Kalemi. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient de léthargie dans les chefs des autorités locales pour la réhabilitation du pont Rugumba, aujourd'hui en état de délabrement très avancé, pont qui se trouve sur ce même axe routier à plus d'une dizaine de kilomètres également de Kalemi.
La Voix de l'Amérique s'associe à 100 citoyens journalistes en République démocratique du Congo. Grâce à des téléphones portables, ces observateurs seront les témoins de tout ce qui se passe au Congo. Retrouvez leurs messages, photos et vidéos sur la page Facebook 100 citoyens journalistes et sur notre site www.lavoixdelamérique.com. Mais aussi leurs témoignages tous les jours dans nos émissions destinées à l'Afrique centrale.
Le monde d'aujourd'hui se poursuit sur la VOA. Jacques Aristide avec vous. Place maintenant aux nouvelles sportives. J'accueille Nicolas Pineau. Mauvaise nouvelle pour Yaya Touré.
Et oui, blessé en début de match contre Liverpool dimanche dernier à Anfield Road, le milieu de terrain international ivoirien de Manchester City souffre d'une blessure musculaire à une cuisse qui l'éloignera des terrains pendant 2 semaines.
La ferveur populaire dans le championnat tunisien n'est pas du goût de la fédération.
Face à la répétition des violences autour des matchs de championnat, la fédération tunisienne de football a annoncé une série de mesures, avec notamment la réduction de moitié du nombre de supporters admis à suivre les rencontres.
Tennis, tournoi de Monte-Carlo.
Le numéro 2 mondial et tenant du titre Novak Djokovic n'a mis que 45 petites minutes pour atteindre les 8e de finale sur la terre battue monégasque. Il a écrasé hier l'Espagnol Albert Montanès, 57e joueur mondial en 2-7, 6-1, 6-0. Enfin Jacques, je vous laisse donner quelques résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain la nuit dernière.
Oui, 2 matchs étaient au programme hier soir. Eh bien, les Knicks de New York ont vaincu les Nets de Brooklyn par la marque de 109 à 98 pour les empêcher de s'assurer du 5e rang dans l'association Est. Dans l'autre rencontre, Denver a été battu par les LA Clippers par 117 à 105. Allez, nous allons souffler un peu maintenant, puisqu'il est l'heure de retrouver Roger Muntou pour un grand bol d'air musical, comme chaque matin. Bonjour Roger.
Salut Jacques.
Il y a qui au programme ce matin, Roger?
Ben ce matin, Jacques, Celia Cruz nous chante La Negra tiene tumbao.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene.
Azúcar, azúcar.
Y no camina de lado.
ses parents avaient en tête une autre carrière pour elle.
Ça, tu peux le dire, Jacques, car la jeune Celia, qui a grandi dans le quartier Abanero de Santos Suarez, tout en suivant des études, car ses parents souhaitent la voir devenir institutrice. Mais en 1940, Celia s'inscrit à un concours pour chanteur amateur et elle remporte la finale. Les choix sont faits. Celia Cruz ne sera jamais enseignante.
L'icône de musique cubaine et de salsa, alors, peut-on le dire ?
Incontestablement, Jacques, car en 1987, Celia fait son entrée dans les Halls de la Fama à Sunset Boulevard de Hollywood, incrustant la 12e étoile latine. Le Grammy comme meilleure interprète latine lui est décerné en 1990 et en 1991, Celia devient l'une des vedettes du film Los Reyes del Mambo. Une carrière pleine, Jacques.
Ah ben oui, merci Roger et bonne journée.
Bonne journée à toi aussi Jacques, see you tomorrow.
Voilà Roger Muntou de RM Show, rendez-vous quotidien à 20h, temps universel. Avant de clore le monde aujourd'hui, un nouveau coup d'œil sur les titres que nous avons développés ce matin. Anne Albertson est de retour.
En République centrafricaine, le directeur de publication d'un quotidien a été arrêté hier pour incitation à la haine, alors que deux journaux ont été suspendus. Épidémie de fièvre hémorragique Ebola en Afrique de l'Ouest. Selon le dernier bilan de l'OMS, il y a au moins 121 morts et plus de 200 cas confirmés ou suspects. La Gambie a fermé son aéroport aux vols en provenance des pays touchés par la maladie. Le président américain Barack Obama recevra le 5 mai à la Maison-Blanche son homologue djiboutien Ismaël Omar Guelleh pour souligner le rôle clé joué par cet allié des États-Unis dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Et puis la situation est plus que jamais explosive dans l'est de l'Ukraine. Kiev a déployé hier ses forces contre les séparatistes pro-russes. Le président Vladimir Poutine a déclaré que l'Ukraine était au bord de la guerre civile.
Merci Anne Albertson qui a également dirigé la mise en onde. Merci aux collègues qui m'ont aidé à préparer cette édition. C'était Jacques Aristide dans la capitale américaine. Merci de votre fidélité. Très bonne journée de mercredi sur la VOA. Take care.